merci d'écouter RFI. Il est 8h à Washington, 13h en temps universel et 14h ici à Paris. Notre édition spéciale consacrée aux élections aux États-Unis se poursuit dans quelques instants. On va parler de ce triomphe de Donald Trump et du Parti républicain. On se retrouve juste après le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour.
Journal consacré aussi très largement aux États-Unis où la vague rouge ressemble à un raz-de-marée.
Oui, la victoire de Donald Trump est sans appel, bien loin d'un scrutin annoncé serré. Les fameux swing states tombent les uns après les autres. Géorgie, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Wisconsin. Une victoire d'autant plus confortable que le Sénat a basculé dans le camp républicain. Son triomphe sera complet si son parti conserve la Chambre des représentants. C'est un comeback incroyable. Après l'assaut du Capitole de ses partisans en 2021, 4 inculpations, une condamnation au pénal et 2 tentatives d'assassinat pendant la campagne. Côté démocrate, la gifle est immense. Bonjour Guillaume Nodin, vous êtes à Washington.
Bonjour.
3 mois de campagne éclair après le retrait de Joe Biden n'auront donc pas suffi à Kamala Harris pour convaincre les Américains.
Oui, c'est la gueule de bois pour les démocrates ce matin. Et hier soir, dès hier soir d'ailleurs, l'un des co-présidents de la campagne Harris s'est adressé aux supporters de la vice-présidente qui était réunie à son ancienne université de Howard University, le creuset des élites noires américaines, pour dire que la vice-présidente, c'est qui aurait bien voulu être présidente, n'allait pas s'exprimer dans la soirée, qu'il reviendrait demain. On est sans nouvelles de Kamala Harris pour l'instant. Et il est peut-être à noter que celle qui reprochait à Donald Trump de ne pas avoir reconnu sa défaite en 2020, eh bien, n'a toujours pas concédé la sienne à cette heure. C'est une défaite qui est lourde. Sur le strict plan du vote populaire, pour l'instant, eh bien, Donald Trump fait 71 millions de voix. C'est exactement, ou à quelque chose près, le nombre de voix qu'il avait fait en 2020. En revanche, pour Kamala Harris, c'est 66 millions de voix, très loin des 81 millions de voix de Joe Biden. Et les démocrates sont bien partis pour perdre l'ensemble des États clés, l'ensemble des États qui étaient disputés. Ils perdent la majorité au Sénat, c'était un petit peu prévu, avec une défaite, des sièges perdus dans le Montana, en Ohio et en Virginie occidentale. Et leur dernier espoir, là pour l'instant, eh bien, c'est de récupérer la Chambre des représentants, un espoir bien mince si l'on se fie aux résultats de toutes les autres courses.
Guillaume Nodin, en direct de Washington. Dans son discours de victoire, Donald Trump a lancé un appel à l'unité après une campagne véhémente désignant des ennemis de l'intérieur. Un discours bien plus travaillé que lors de sa première victoire en 2016, qu'il avait surpris lui-même. Donald Trump est mieux préparé. Son mandat a cette fois-ci des objectifs clairs. Comme le souligne Jérôme Viala-Godefroy, il est docteur en civilisation américaine, spécialiste de la rhétorique présidentielle.
Une des grosses différences, c'est qu'il est beaucoup mieux préparé et surtout, il est beaucoup mieux entouré. En 2016, en fait, il ne s'attendait pas à une victoire. Il espérait peut-être en profiter pour son business et puis dire que l'élection avait été volée aussi, mais voilà. Et en fait, il était surpris, il a dû trouver des gens un petit peu comme ça, sans trop avoir préparé. Il n'avait pas la machine aussi du parti aussi autant derrière lui, puisqu'il a fait une purge depuis, et il a vraiment récupéré toutes les commandes à tous les niveaux du parti. Et l'idée, ça va être de faire une purge cette fois-ci dans l'administration, pour avoir des gens qui seront loyaux. En fait, à tous les niveaux, ce qui va être important pour Donald Trump, c'est la loyauté, c'est-à-dire que ce soit des gens qui obéissent et qui ne posent pas de questions.
Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine, il était l'invité dans la matinale de RFI.
Très vite, les messages de félicitations ont afflué du monde entier. Les chefs d'État se sont empressés de saluer la victoire de Donald Trump.
Surtout en Europe, le président français en tête, la présidente de la commission à elle adressé de chaleureuses félicitations. Ursula von der Leyen pour les 27 espère une coopération fructueuse de part et d'autre de l'Atlantique. Le Premier ministre français Michel Barnier a lui mis en garde les Européens contre le chacun pour soi en plaidant pour une stratégie européenne coordonnée.
Le retour de Donald Trump au pouvoir, c'était le scénario redouté par les dirigeants des institutions européennes qui craignent notamment un désengagement des États-Unis en Ukraine.
Loin d'un triomphalisme affiché, malgré des relations privilégiées avec Donald Trump, la Russie affirme que le futur locataire de la Maison-Blanche sera jugé sur ses actes. Emmanuel Chaz, bonjour, vous êtes en direct de Kiev.
Oui, bonjour.
Côté ukrainien, le président a certes salué la victoire du candidat républicain. Volodymyr Zelensky dit surtout espérer que son élection aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste, Emmanuel.
Oui, tout à fait. Alors, ces félicitations de Volodymyr Zelensky, elles sont très appuyées hein, ici depuis Kiev. Le président ukrainien parle de victoire impressionnante. Il souligne, il rappelle plutôt la rencontre de septembre aux États-Unis avec Donald Trump en disant qu'il apprécie l'attachement de Trump à la méthode de la paix par la force dans les problèmes mondiaux, je cite. Alors, Volodymyr Zelensky dit que ce principe pourrait vraiment aider à rapprocher l'Ukraine de la paix juste. Il parle de gouvernance décisive. Il espère un soutien bipartite aux États-Unis, sachant qu'au cours de ces deux ans, il y a eu des visites très fréquentes hein, de délégations à la fois démocrates et républicaines en Ukraine. Et Volodymyr Zelensky, il rappelle que l'un des pays militaires les plus puissants d'Europe, l'Ukraine, eh bien, elle espère aussi pouvoir assurer la paix et la sécurité. Donc, c'est vraiment un message qui vise à la collaboration, à la coopération avec les États-Unis.
Alors, on sait que Donald Trump a promis de faire la paix en 24 heures entre l'Ukraine et la Russie. Chez les Ukrainiens, Emmanuel, c'est plutôt l'inquiétude qui domine.
Alors, pour les Ukrainiens, c'est un peu compliqué. Il y a des inquiétudes en raison du caractère imprévisible de Donald Trump sur sa position quant au plan pour la victoire de l'Ukraine également, sur la question de la cession de territoire, des négociations hein, qui peuvent se profiler. Alors que Donald Trump se targue de pouvoir arrêter les guerres, les Ukrainiens, eux, ils s'inquiètent de savoir comment ils comptent s'y prendre, car ici, on n'envisage pas de concessions territoriales.
Merci Emmanuel Chaz en direct de Kiev. En Israël, Benjamin Netanyahou a salué un comeback historique de Donald Trump, lui qui est coutumier du fait. Hier soir, des milliers d'Israéliens se sont rassemblés à Tel Aviv pour protester contre le limogeage du ministre de la Défense en pleine guerre. Et le jour de l'élection américaine, Benjamin Netanyahou a congédié Yoav Gallant. Le Premier ministre évoque un manque de confiance en son ministre. Yoav Gallant plaidait pour une trêve avec le Hamas afin d'obtenir la libération des otages encore détenus à Gaza.
Dans le reste de l'actualité, en Espagne, une semaine après les inondations, le gouvernement a présenté un plan d'aide pour les sinistrés.
Plus de 10 milliards d'euros vont être débloqués par l'État. Pedro Sanchez assure que 100% des dépenses urgentes engagées par les municipalités seront prises en charge. Et pour la première fois, les autorités ont donné un chiffre de personnes disparues. En plus des 219 morts recensés, 89 personnes sont officiellement toujours recherchées. Les conditions de vie des sinistrés reste très difficile. Des ONG sont venues prêter main forte, comme Guardias Civiles Solidarios. C'est une association de gendarmes habituée à se rendre sur les lieux de catastrophes partout dans le monde. Un témoignage recueilli à Valence par Angelica Pérez et Pauline Glaise.
Après une nuit de route, Roberto Naro Otero, vice-président de l'association Guardia Civiles Solidarios, et ses sept collègues sont arrivés en zone sinistrée.
Au début, c'était un peu chaotique. Les habitants se plaignaient et l'on faisait ce que l'on pouvait. Mais l'objectif principal, c'était de trouver des survivants, donc on ne se concentrait pas beaucoup sur la distribution de nourriture. Au début, c'était chercher.
Et les secours ont retrouvé des survivants dans les décombres.
Pas nous, mais samedi, une femme et un bébé ont été retrouvés. Cela faisait 4 jours qu'ils étaient dans leur voiture, en dessous de beaucoup d'autres voitures.
Le temps passant, dimanche soir, Roberto Naro Otero résumait le rôle de l'association à Valence de cette manière.
Chercher les cadavres, la plupart sont dans des garages. Ils sont descendus pour sauver leur voiture et ils ont été coincés dans les sous-sols. Il y a eu aussi beaucoup de morts sur l'autoroute.
Et ce genre d'opération prend du temps.
D'abord, un groupe de l'unité militaire d'urgence Pomplo. Ensuite, un groupe spécialisé de la garde civile est appelé. Et là, on descend dans le garage et on voit ce qu'on trouve. Par exemple, samedi, on a trouvé une personne dans un petit garage.
Pendant leur mission de 3-4 semaines, les gardes civils solidaires travailleront aussi à dégager les routes. Pauline Glaise, de retour de Valence, RFI.
Voilà pour le journal. Tout de suite, la spéciale et la suite de la spéciale américaine avec vous, Anne.
Merci Karine Bellicha. Il est 8h10 à Washington.
Édition spéciale Élections américaines 2024 sur RFI. Anne Cantner.
Nous sommes avec nos correspondants et avec un invité que nous rejoindrons dans quelques instants, mais on va prendre tout de suite la direction de la capitale des États-Unis. Karine Auton, vous êtes en direct de Washington. Alors, hier, quand les partisans de Kamala Harris sont partis du lieu de rassemblement, tout n'était pas perdu. L'ambiance s'était déjà un peu assombrie hein, quand son équipe de campagne avait annoncé qu'elle ne prendrait pas la parole dans la nuit. Est-ce qu'on sait quand elle s'exprimera aujourd'hui ?
Alors, on ne sait pas exactement encore à quelle heure, mais on est sûr qu'elle s'exprimera aujourd'hui. On peut tabler certainement sur la mi-journée, mais vous imaginez bien, il faut que l'équipe se réorganise. Personne n'imaginait ici n'avoir les résultats si rapidement. Ce n'était vraiment pas du tout l'une des options dans nos cartes, et certainement pas dans celle de l'équipe de campagne de Kamala Harris non plus. Ceci dit, très rapidement, on va savoir à quelle heure elle va s'adresser à ses supporters à Howard University.
Le résultat est sans appel pour Donald Trump. C'est vraiment un coup de bambou pour le camp démocrate.
C'est un coup de bambou parce que je pense que les démocrates se rendent compte de à la fois du message qui n'est pas passé. C'est ce vote populaire qui est obtenu par Donald Trump, c'est bien plus que juste un quelque chose qui se joue un cheveu sur le fil comme ça s'est passé il y a 4 ans. Ça prouve bien que il y a eu un problème dans cette campagne démocrate de message qui n'est pas passé. C'est ce que l'heure va être au bilan. Hein. Les coupables vont, enfin pas les coupables, mais les raisons vont être disséquées. Est-ce que Kamala Harris a été présentée trop tard par Joe Biden? Est-ce que surtout la question de l'inflation a été correctement expliquée au reste des Américains pour que Donald Trump récupère ce vote populaire, cette différence? Et puis les démocrates perdent à la fois aussi le Sénat. Ils sont en voie pour tout de même, ils sont pas en bonne voie pour la Chambre des représentants. On voit cet hémicycle se colorer de plus en plus en rouge. Donc effectivement, c'est tout le camp démocrate qui va avoir la gueule de bois ce matin.
Merci Karine Auton. On voit effectivement au fur et à mesure que les heures passent l'ampleur de la victoire des Républicains. Nous sommes en ligne avec Antoine Yoshinaka pour en parler, professeur de sciences politiques à l'Université d'État de New York à Buffalo. Bonjour.
Bonjour Madame Crampé.
Vous trouvez vous aussi à Washington. Quelle est l'ambiance générale ce matin ?
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a tous été quand même assez surpris, si ce n'est que, comme l'a mentionné votre intervenante, la vitesse à laquelle on a obtenu un résultat. Et évidemment, le résultat aussi a été surprenant, et c'est la victoire de Trump. Et c'est non seulement un retour à la Maison-Blanche, mais il faut quand même le souligner. Il a obtenu, au dernier décompte, là, il a une majorité absolue des voix. Il est présentement à près de quoi, 71 millions, ce qui se rapproche beaucoup de son résultat en 2020, alors que le taux de participation avait été beaucoup plus élevé en 2020. Donc, c'est possiblement la meilleure performance d'un candidat républicain depuis, il faut remonter à George Bush père en 1988. Et donc, c'est assez exceptionnel comme résultat.
Un triomphe même pour Donald Trump, comme le disent plusieurs journaux ce matin. C'est une défaite pour Kamala Harris. Est-ce que c'est elle qui emporte la responsabilité ou est-ce que c'est une défaite de toute l'administration Biden?
Non, je dirais que ça, c'est plus l'administration et c'est le contexte. Écoutez, il y a des facteurs, on appelle, en sciences politiques américaines, on les appelle les facteurs fondamentaux. Essentiellement, vous avez un président qui est historiquement impopulaire, en Joe Biden, qui a présidé sur une économie qui est, disons, une situation économique qui est perçue de manière très négative. Alors, il est excessivement difficile pour un membre de son administration, dans ce cas-ci, Mme Harris, de briller la présidence. Elle est un peu coincée. Elle a été coincée parce qu'elle voulait, qu'il fallait en quelque sorte se distancer un peu de son administration, mais c'était difficile pour elle de le faire puisqu'elle fait partie de cette administration. Et donc, cette idée qu'on voulait tourner la page, bien, c'était difficile pour elle de procéder avec ce genre d'argument parce que c'est elle essentiellement qui était en poste lors des 4 dernières années en tant que vice-présidente. Et ça a été ça un peu le problème de Mme Harris, c'était vraiment le contexte qui était favorable, disons, aux républicains.
Manifestement, effectivement, ça n'a pas marché. Donald Trump, 277 grands électeurs selon les résultats disponibles à cette heure-ci, 224 pour Kamala Harris. Elle ne peut plus rattraper son retard, là c'est trop tard. avant même que ce nombre clé soit atteint. Donald Trump, dans la nuit, avait pris la parole. Il était déjà sûr de son élection grâce à sa victoire en Pennsylvanie. Oui. Et voici notamment ce qu'il a dit.
Rien ne m'empêchera de tenir ma parole envers vous, le peuple. Nous rendrons l'Amérique sûre, forte, prospère, puissante et libre à nouveau. Et je demande à tous les citoyens à travers notre pays de se joindre à moi dans cette noble et juste entreprise. Il est temps de laisser derrière nous les divisions de ces quatre dernières années. Il est temps de s'unir. Et nous allons essayer, et cela va se produire. Le succès nous rassemblera, je l'ai déjà constaté.
Antoine Yoshinaka, comment est-ce qu'on réconcilie un pays qui est aussi divisé que les États-Unis aujourd'hui?
Ça va être très difficile de le faire. Écoutez, la population, l'électorat est très polarisé. Ce sont de très belles paroles qu'il a exprimées hier. Mais on sait que parmi les promesses électorales qu'il a faites durant la campagne, une d'entre elles, c'était de commencer une déportation massive d'immigrants sans papier. On parle de plus de 10, peut-être 15, jusqu'à 20 millions de gens qui sont ici aux États-Unis, qu'il dit vouloir expulser du pays. Alors, vous pouvez vous imaginer que s'il décide d'y aller de l'avant, ça va créer beaucoup, beaucoup de conflits et ça va être très acrimonieux comme processus, on peut s'imaginer. Et de plus, s'il veut vraiment s'attaquer d'instaurer ces tarifs, ces taxes d'importation, il dit de 20%, même plus peut-être, provenant de la Chine, ça va être tout un bouleversement de la situation économique aux États-Unis. Alors, ça risque d'envenimer pas mal la situation qui est déjà, politiquement, elle est déjà très, très fragile.
Il avait parlé aussi pendant sa campagne des démocrates comme d'un ennemi de l'intérieur. La presse s'interroge déjà. Je vous cite un titre du Washington Post ce matin, un article intitulé « Sa présidence sera-t-elle aussi sombre que sa campagne ?» Est-ce que, selon vous, il va vraiment changer de ton?
C'est difficile de le dire parce que, vous savez, avec M. Trump, souvent, il dit une chose, il en fait une autre. Donc, on va attendre la suite des choses. Je pense qu'une des premières, un des premiers indices, ça va être les gens qu'il va nommer au sein de son administration. On sait qu'en raison de sa majorité, la majorité républicaine au Sénat, il y a déjà 52 sièges de confirmés, ça risque peut-être d'augmenter. Il va avoir essentiellement carte blanche, parce que tous les membres de son cabinet doivent être approuvés par le Sénat, ayant une majorité des sièges républicains. Ça va lui donner essentiellement le feu vert de nommer tout son personnel. Alors, on va suivre ça de très près parce que s'il s'entoure de gens de, entre guillemets, MAGA, là, des populistes purs et durs, ça risque de nous donner un très bon indice de la suite des choses.
On va faire le point justement sur ces autres élections. En fait, il y avait beaucoup de scrutins hier. On va parler d'une partie d'entre eux, des deux autres scrutins fédéraux. Vincent Souriot, les Américains votaient hier pour renouveler un tiers du Sénat et toute la Chambre des représentants. Et donc, on le dit depuis tout à l'heure, on a déjà une idée assez claire de ce que ça peut donner.
Oui, ce dont il faut se rappeler, c'est que jusqu'ici, les deux chambres étaient réparties équitablement. Les démocrates dominaient le Sénat, les républicains contrôlaient la Chambre des représentants. On s'attendait, d'après les projections, à ce que ce tableau s'inverse. Chambre démocrate, Sénat républicain. Eh bien non, cerise sur le gâteau pour Donald Trump. Non seulement, comme on s'y attendait, les républicains s'emparent du Sénat grâce à des victoires, en particulier dans l'Ohio, en Virginie-Occidentale et dans le Nebraska. Mais surtout, ils sont bien partis pour conserver la Chambre des représentants, plus de 40 sièges d'avance. À l'heure actuelle, c'est quasiment irrattrapable, ce qui donnerait un boulevard à Donald Trump. Maison Blanche, main mise sur le Congrès et Cour suprême à majorité conservatrice. Il est sur le point de détenir les clés de l'ensemble des institutions américaines. En pratique, ça veut dire, côté Chambre des représentants, qui a notamment l'initiative sur toutes les lois budgétaires, pas de problème de budget, ou en tout cas s'il y a des divergences d'approche au sein du Parti républicain sur le budget, ça pourra se régler en interne. Et on entre d'ailleurs dans une phase identique à celle du début du mandat Biden, où la Maison Blanche et la Chambre étaient là aussi de la même couleur politique. Et côté Sénat, comme on vient de l'entendre, ça veut dire dire que les processus de nomination ne seront qu'une formalité. À court terme, effectivement, la nouvelle administration Trump, donc son cabinet, son conseil des ministres en quelque sorte, qui va passer comme une lettre à la poste, et peut-être plus décisif encore, les juges que Donald Trump voudra placer ici ou là seront placés sans pouvoir d'obstruction des démocrates. Même chose pour la ratification des traités, c'est l'une des compétences du Sénat aux États-Unis. La Maison-Blanche aura les coups des franches, boulevard donc pour Donald Trump du point de vue des institutions américaines.
Antoine Yoshinaka, vous nous le confirmez, Donald Trump va avoir les mains totalement libres, au moins pour les 2 ans qui viennent ?
Totalement libre, on ne peut pas nécessairement affirmer cela, mais il va y avoir quand même, comme on le dit, un grand boulevard. Il faut aussi souligner que certains des sénateurs républicains, disons, qui faisaient partie, disons, de l'establishment, qui étaient peut-être moins enclin à approuver les projets de Trump. Je pense par exemple à des Mitt Romney. Il n'est plus là, il ne sera plus là. Mitch McConnell, qui était le leader républicain, ça ne sera plus lui le leader. Ça va être un autre leader à sa place. Donc, il y a quand même moyen pour les démocrates, parfois avec certains modérés du Parti républicain, de tenter de mettre des bâtons dans les roues de M. Trump. Mais certainement au début de son mandat, je crois qu'il aura, essentiellement carte blanche au Sénat ainsi qu'à la Chambre, si bien sûr les Républicains réussissent à obtenir la majorité.
Oh oui, on attend encore une confirmation. Tous les résultats ne sont pas connus pour la Chambre. Si je comprends bien ce que vous nous dites, il y a aussi un renouvellement à l'intérieur du Parti républicain ?
Ben oui, écoutez, parce que ça fait depuis quelques cycles électoraux qu'il y a des républicains, disons, l'ancienne garde, si vous voulez, du Parti républicain. Ils quittent la scène politique et ils se font remplacer par des républicains qui sont beaucoup plus, disons, populistes, plus trumpistes, là, si vous voulez. Et cela fait en sorte qu'à l'interne, il risque d'y avoir un petit peu moins de désaccord vis-à-vis les politiques de Trump. Ceci dit, vous savez, le Congrès nous réserve souvent des surprises. À chaque fois qu'un président pense pouvoir dominer, si vous voulez, la scène politique, les membres du Congrès parfois décident de rétorquer ou d'empêcher peut-être les excès provenant de la branche exécutive. Donc, ça reste à voir, mais il est clair que comparativement à son premier mandat, il aura beaucoup plus de marge de manœuvre.
Notamment en ce qui concerne les nominations, donc ça c'est une conséquence de la majorité au Sénat. Est-ce qu'on a une idée des personnalités avec lesquelles Donald Trump compte gouverner ?
Eh bien, ça aussi, ça va être une très bonne question, parce que pendant la campagne, il a mentionné vouloir nommer des gens comme Robert Kennedy Jr., il a parlé de Elon Musk, il y a des rumeurs selon lesquelles l'ancienne représentante Tulsi Gabbard, qui est maintenant républicaine, est-ce qu'il va aller de ce côté? Il y a des gens comme Marco Rubio qui était là justement hier lors de son allocution. Est-ce qu'il jouera un rôle au sein de son administration? Donc, tout ça reste à voir. Évidemment, qui nommera-t-il, par exemple, comme procureur général, qui est un poste très important parce que historiquement, c'est un poste où le procureur général est supposément prendre des décisions de manière indépendante de la Maison-Blanche. Ceci dit, s'il veut vraiment instrumentaliser la justice, va-t-il nommer quelqu'un qui va lui être très loyal? Ça va être la grande question.
Sur ce point de la justice, justement, est-ce que désormais Donald Trump est intouchable? Il a été condamné, on le rappelle, par la justice pénale. Il est poursuivi par la justice fédérale, donc lors d'un procès suspendu mais qui n'est pas complètement abandonné pour tentative d'avoir voulu renverser le vote en Géorgie lors de la présidentielle de 2020. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
Eh bien, ce qui semble, c'est assez clair que du côté de tout ce qui les poursuites au fédéral, tout ça va tomber à l'eau parce que le procureur spécial qui a été nommé Jack Smith, il va limoger, ça c'est clair. Et la personne qu'il va nommer comme procureur général, évidemment, va tout laisser tomber ce genre de poursuite. Ceci dit, il a été condamné dans l'État de New York. Il y a encore des procédures
dans l'État de la Géorgie. Alors ça, ça reste à voir, mais vous savez, en tant que président, il va avoir une certaine immunité. On sait que la Cour suprême a déjà statué sur l'immunité d'un ex-président, mais là, un président en poste, il va être très difficile. Je le qualifierais presque même d'intouchable durant les 4 prochaines années.
Alors, vous nous parliez tout à l'heure aussi, parmi les personnalités qui sont dans l'entourage proche de Donald Trump, d'Elon Musk. Il se trouvait dans la salle au moment où il a fait son discours la nuit dernière en Floride. Et puis, lors de ce discours, lors de ce rassemblement, on a entendu des insultes contre les journalistes. Ce fameux Elon Musk a tweeté tout à l'heure « Vous êtes désormais les médias à l'attention des utilisateurs de X ». Ça, ça s'inscrit dans la veine qu'on observe déjà depuis plusieurs années des faits alternatifs. En fait, ça a accompagné toute la vie politique de Trump d'entretenir une défiance à l'égard des médias dits mainstream, de manipuler les faits. Est-ce que, selon vous, cette élection, cette deuxième élection, ça signe aussi l'avènement d'une classe dirigeante alternative, elle aussi ?
Oui, écoutez, ça a été vraiment l'élection ça s'est déroulé sur les réseaux sociaux. En fait, c'était pas la première élection sur les réseaux sociaux, évidemment, mais c'était la première élection sous un réseau social Twitter, donc nommé X maintenant, dirigé par Elon Musk, qui était clairement favorable au Parti républicain et à Donald Trump. On sait que, bon, historiquement, il y avait des réseaux de chaînes câblées comme Fox News, par exemple, qui étaient, bon, plus conservatrices, plus enclins à appuyer des candidatures comme celle de M. Trump. Mais là, ça s'est traduit dans des appuis comme ça sur les réseaux sociaux. Et on sait qu'avec les réseaux sociaux, il y a tous les algorithmes qui sous-tendent ces sites web. Et ça fait en sorte que les gens sont exposés peut-être aux informations, à certains types d'informations plutôt que d'autres, ce qui ne fait que renforcer déjà les chambres d'écho qui existent. Du côté des démocrates, je crois que c'est une nouvelle ère de campagne qui se déroule en ligne et il va falloir qu'il s'ajuste en conséquence pour pouvoir, dans 4 ans, ultimement tenter de remporter la prochaine élection, essentiellement.
Et du côté républicain, est-ce que cette victoire de Donald Trump, ce triomphe, on le dit, puisqu'il pourrait réaliser un grand chelem, si je peux le dire de cette manière, les deux chambres au Congrès et puis la présidence, est-ce que ça signifie que son mouvement MAGA a définitivement pris le dessus au sein du Parti républicain ?
Ah oui, et oui, écoutez, le Parti républicain, c'est le parti de Donald Trump. Il y a 8 ans, ce n'était pas nécessairement le parti de Donald Trump. Il y avait encore beaucoup d'élus, de grands leaders républicains qui se disaient soit anti-Trump ou qui se disaient, disons, plutôt tièdes envers M. Trump. Même il y a 4 ans, il y avait encore, écoutez, le leader très puissant au Sénat depuis plusieurs années, c'est Mitch McConnell, le sénateur du Kentucky. Mitch McConnell déteste Donald Trump et il a été le leader du Parti républicain tout au long de la présidence de Donald Trump et au cours des 4 dernières années. Et là, il tire sa révérence comme leader. Il va être encore au Sénat, mais ça va être un nouveau leader qui va prendre sa place. Donc, essentiellement, le Parti républicain, c'est le parti de Donald Trump.
Et ça ne peut pas être reproché au Parti républicain de la part d'électeurs un peu plus modérés?
En fait, ils ont essayé, ces électeurs modérés. Il y avait des élus, disons, plus modérés du Parti républicain ou des anciens élus du Parti républicain qui ont affirmé publiquement qu'ils n'allaient pas appuyer Trump et qu'ils ont employé des mots quand même assez, des qualificatifs assez extrêmes pour décrire Donald Trump. Il y en avait qui le traitaient de fasciste, des anciens membres de son administration même. Et on a vu ce que ça a donné. Les électeurs ont rejeté ces sobriquets et ont ramené Donald Trump à la Maison-Blanche avec, encore une fois, je souligne, une majorité plus importante que celle de 2016, alors qu'il avait perdu, évidemment, le vote populaire face à Mme Clinton et bien sûr, une plus grosse majorité qu'en 2020, alors qu'il avait perdu l'élection contre Joe Biden. Donc, c'est vraiment une victoire sur toute la ligne pour Donald Trump.
Et c'est ainsi que se termine notre édition spéciale. Merci beaucoup, Antoine Yoshinaka, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de l'État de New York à Buffalo, en direct aujourd'hui de Washington. Les élections américaines, on continue d'en parler ce soir sur RFI, au programme de notre débat et de notre décryptage. C'est à partir de 18h, temps universel. Et puis toute la journée sur notre live sur le site RFI.fr. Très bonne journée à tous. À demain.
RFI, la sélection du mois.
Skilly Bang, yes, it's just... et Toki Shark.
If you rub a dope, anywhere you ride, I ain't a water. Me we cock you up, fuck your pamba and I ain't no matter. Baby girl, you have to call your papa. Want to blow you like a farmer with a fucking and a cat.
Somebody come and say you said they want it. Tell them like, oh, la reine.
Connected.
If somebody come and say you said they want it. Tell them like, oh,
the Afrobeat.
Connected. I tell them boys, sit down.
RFI. RFI.